France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT, alors que Orange a annoncé la disparition totale des cabines téléphoniques en France en 2018. Une question nous hante, s'il n'y a plus de cabines téléphoniques, comment Clark Kent va-t-il se changer en Superman? Faut pas s'étonner de l'absence de super-héros en France après ça. Malgré cette interrogation abyssale, ils sont tout de même venus, on les remercie. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Aude Rossigneux, bonsoir.
Bonsoir.
Également le député de Lyon, Les Républicains, Guillaume Larrivé, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Alix, bonsoir, de
bonsoir.
Libération.
Bonsoir.
Et Marion Maure, bonsoir, bonsoir, du Figaro. Et ce soir, nous parlerons un peu de sécurité privée, du constructif pensif, comment occuper également son 12 septembre. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors si Emmanuel Macron avait été un ange au moment où Dieu se mit à créer le monde, sûr que le septième jour il lui aurait dit « Eh ben t'en as mis du temps, hein, une semaine pour créer le monde et en plus tu te reposes le dimanche, il va falloir changer tout ça hein, mon gars ». Cet été, le président de la République avait dit que les Français n'aimaient pas les réformes, enfin les autres, hein, pas les siennes. Éducation, code du travail, aujourd'hui c'est le RSI et demain, eh bien à venir, l'assurance chômage, la formation professionnelle et les retraites, Macron réformateur pressé, qui doit faire face à une grogne hein, concernant les emplois aidés et des collectivités territoriales à bout de souffle. Et parfois, eh ben, il faut corriger. Hein. Souvenez-vous, cet été, la baisse des APL de 5 euros créait la polémique et la colère des bénéficiaires, notamment les étudiants, puisqu'ils sont 800 000 à en être bénéficiaires. Eh bien, aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé la parade, assez étonnant, parce que pas sûr que ça plaise à tout le monde, Emmanuel Macron.
Je n'ai jamais entendu quelqu'un féliciter l'État des 5 euros d'augmentation il y a quelques années des mêmes APL. Pour une raison simple, les propriétaires avaient augmenté de 5 euros le loyer. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires, à baisser de 5 euros le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 euros le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout.
Voilà, Emmanuel Macron. Alors, Aude Rossigneux, ça paraît assez étonnant. C'est-à-dire qu'on supprime 5 euros des APL, mais pour compenser, on demande aux propriétaires d'enlever 5 euros de loyer. Bien sûr, tous les propriétaires se sont précipités.
Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai vu l'annonce, enfin, l'alerte sur mon téléphone, j'ai cru que c'était un truc du Gorafi, j'ai cru que c'était une blague. Et je me dis qu'il veut vraiment, décidément, se fâcher avec tout le monde. Parce qu'il va, alors, il fait quoi l'année prochaine? L'année prochaine, il réduit l'allocation de rentrée scolaire. Et puis après, il demande aux fabricants de cartables de baisser le prix des cartables.
C'est ça.
Et puis après, on va aussi baisser les remboursements de la Sécu, puis on va dire aux médecins de baisser leurs honoraires. Mmh. Enfin, moi, je ne comprends pas. On a l'impression qu'il veut se fâcher avec tout le monde. Il se fâche avec les étudiants et maintenant, il va se fâcher avec les propriétaires.
C'est assez étonnant, Guillaume Larrivé. Vous, comment vous l'avez perçu, ça? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait, véritablement, Emmanuel Macron?
Ce qui m'intéresse, il y a le fond, mais il y a aussi la méthode. Il y a deux choses que je trouve assez curieuses. Premièrement, c'est le président de la République qui fait une nouvelle annonce sur un sujet certes important, mais on se demande s'il y a un ministre du Logement. Je suis même pas sûr que tout le monde, et en tout cas les auditeurs qui nous écoutent, connaissent le nom du ministre du Logement. Moi, je le sais, parce qu'on est dans le milieu, si j'ose dire. Il y a un certain monsieur Mézard.
Enfin, oui, tout à fait.
J'aimerais savoir si éventuellement monsieur Mézard a le début d'une esquisse d'idée sur la politique du logement, des objectifs, quelque chose à nous dire sur le sujet. Première remarque. Deuxième remarque, pardon, mais on nage en pleine improvisation. On a l'impression que le président de la République est venu devant les préfets. Il y a eu ce problème de la baisse des APL cet été, qualifié par le Premier ministre lui-même de sottise, d'erreur, de bêtise. Et puis là, on a l'impression qu'on en rajoute une espèce de seconde bêtise, comme si la seconde bêtise allait annuler la première. Enfin, je trouve que c'est très pagailleux, c'est très improvisé. On est loin, me semble-t-il, très loin du professionnalisme qui nous a été présenté comme synonyme de ce nouveau monde dans lequel on serait entré après l'élection du nouveau prince Élysée.
C'est ça qui est assez étonnant, Marion Maure, c'est en effet Emmanuel Macron très à même de la communication. Hein, on l'a vu pendant un an finalement faire avec la campagne présidentielle. Cette histoire d'APL, ça lui colle au basque. C'est vraiment pendant l'été, ça a été un moment totalement raté au niveau de la communication. Lui-même, on le sait, a dit qu'est-ce que c'est, je cite, c'est cette connerie, hein, véritablement. Et là, dans le point, son interview, il dit qu'en effet, il va aller plus loin sur l'APL. Et là, de nouveau, en effet, il parle maintenant des propriétaires en disant qu'il faut que chacun prenne sa responsabilité.
Oui, c'est ça. Cet été, ça sort un samedi. Et ensuite, il y a une polémique qui est déclenchée. Et on voit bien que depuis, le gouvernement n'a pas réussi à reprendre la main et que c'est un sujet explosif parce qu'il y a la rentrée des étudiants et que, de fil en aiguille, les étudiants pourraient aussi se joindre à d'autres manifestations. Donc on se dit, on voit cette interview, on se dit que le gouvernement a compris et essaye de proposer une réforme du logement qui est d'ailleurs annoncée. Pour le 13 septembre, on aurait les textes. Et là, on a un tour de passe-passe aujourd'hui avec l'idée que une mesure qui a fait polémique pourrait être compensée par une autre mesure, mais qui est
qui n'est d'ailleurs pas une mesure, c'est juste un vœu et un rêve d'Emmanuel Macron que les propriétaires puissent d'abord baisser les loyers de 5 €. Enfin, on n'imagine pas tellement, même si quand il parle des bailleurs sociaux, effectivement, on peut éventuellement passer des messages, mais enfin, non, c'est aussi assez surprenant de la part d'un homme politique qui a fait tout son discours sur finalement une forme d'acceptation du libéralisme, de l'économie de marché. Là, il propose une sorte de mesure administrée. Alors, il la propose finalement sur le plan moral, parce qu'il parle de solidarité nationale.
Mais
effectivement, alors sans doute, effectivement aussi, c'est une mesure qui va toucher les étudiants, c'est-à-dire les jeunes. Et donc, voilà, il y a un point sensible sur ce sujet.
Et quand vous dites solidarité nationale, vous imaginez Audrey Signeul, là, c'est-à-dire tous les propriétaires, justement, qui se sont dit, c'est formidable, bien sûr.
Mais bien sûr, ils vont faire ça. Évidemment, ils attendaient qu'on leur demande gentiment, parce qu'ils se font un peu prier, je vous dis, c'est à votre bon cœur.
Ceci dit, il y a une chose qui est vraie dans les APL, c'est que le principe des APL est intégré par les propriétaires aujourd'hui qui, dans les loyers qu'ils demandent, incluent finalement cette subvention de l'État, qui est versée à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de revenu. Et donc, sur le fond, se poser la question de ce mécanisme des APL, ce n'est pas absurde. Et là, la manière dont il le fait
est assez étrange, on va dire.
Et on a l'impression que c'est pas improvisé.
Alors on va justement on va continuer à parler de ces réformes, ou plutôt transformations, puisqu'il ne faut pas dire réforme maintenant, c'est terminé. Dans un instant, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
La Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais également la Guadeloupe, placés désormais en vigilance rouge. Une précaution de Météo France, alors que le passage de l'ouragan Irma est de plus en plus menaçant. Les prévisionnistes s'attendent à un ouragan extrêmement dangereux. François Hollande prend les rênes de sa fondation La France s'engage, et dans une interview exclusive à France Info, l'ancien président de la République entend contribuer à faire réussir son pays. Il en profite pour appeler le président turc Erdogan à libérer Lou Bureau, ce photo-reporter français détenu depuis le mois de juillet. 14 prévenus et 11 personnes morales renvoyées en correctionnel dans l'affaire du Mediator, c'est une information France Inter. Et dans ces 14 prévenus, les laboratoires Serrier et l'Agence nationale de sécurité du médicament renvoyés respectivement pour homicides involontaires par violation délibérée et homicides involontaires par négligence, en face plus de 4000 plaignants. Au 9e jour de la disparition de Maïlys, les gendarmes ont perquisitionné toute cette journée au domicile du suspect à Domessin, en Savoie, quelques kilomètres de Pont de Beauvoisin. C'est là que l'homme dit avoir fait un aller-retour la nuit du mariage. Il aurait jeté un short taché de vin. Pour avoir accès à ce dossier d'instruction, les parents de la fille disparue se portent partie civile. Et puis Donald Trump met fin au programme protégeant 800 000 jeunes sans papier. Aucune nouvelle demande ne sera examinée. Un programme mis en place par son prédécesseur, Barack Obama. Il mettait des centaines de milliers de jeunes sans papier à l'abri d'une expulsion pour pouvoir étudier et travailler aux États-Unis.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des réformes d'Emmanuel Macron, ça n'arrête pas, en plus là il y a une nouvelle annonce concernant donc les propriétaires qui doivent se porter solidaires finalement de ces étudiants qui vont perdre 5 €, voire plus, on ne sait pas, au niveau des APL. Mais Marion Maure, pourquoi finalement aujourd'hui ce calendrier aussi chargé? On voit quand même que c'est des réformes très lourdes. Est-ce que ça veut dire que aussi Emmanuel Macron a tiré les enseignements de François Hollande, de cette loi El Khomri qui arrivait en fin de quinquennat, qui avait été mal ficelée, et il se dit, je fais annoncez tout au début de quinquennat ?
Oui, il y a plusieurs choses. Il l'avait annoncé dans sa campagne, il avait dit qu'il voulait transformer la société, d'où le terme, justement, on ne parle plus de réforme, mais
transformation.
Donc,
libérer les énergies.
Exactement. Donc, il faut bousculer un peu tout et aller vite. Il y a aussi le calendrier politique qui le sert, c'est-à-dire qu'il y a les sénatoriales, mais La République En Marche voit que c'est plutôt favorable à la droite. Et ensuite, pendant 3 ans, il n'y a pas d'élection. Donc, il faut aussi profiter de cette fenêtre de tir. Et puis, ils ont aussi appris des erreurs de leurs prédécesseurs, c'est-à-dire qu'ils se sont dit « il va falloir concerter davantage ». Et en concertant, ça permet aussi de déminer un peu et de diviser pour mieux régner, donc d'en profiter pour passer les textes. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien.
Guillaume Larrivé, vous en avez pensé quoi quand le président de la République a dit que les Français étaient allergiques aux réformes ? C'est vrai que... On se souvient de, par exemple, de François Fillon qui proposait un programme assez dur, beaucoup de réformes également pour la France. Est-ce que vous pensez que les Français sont allergiques à la réforme ?
Je pense que c'est un débat d'abord sémantique. En réalité, Emmanuel Macron dit que les Français ne veulent pas de réformes, ils veulent des transformations. Ça, c'est des mots, c'est de la communication.
Ils sont allergiques au changement, alors ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde la transformation et une forme de brutalité dans l'action. Typiquement sur les emplois aidés. Sur le fond des emplois aidés, j'ai des interrogations. J'écoute ce que disent les maires dans ma circonscription qui, individuellement, trouvent souvent utile de recourir à un emploi aidé pour une cantine, etc. Mais au plan macro, au plan global, je sais que parfois, ces emplois aidés, ce sont de faux emplois payés par de vrais impôts. Je sais bien qu'il y a une masse budgétaire assez considérable qui est consacrée à cela. Sans doute faut-il la réduire. Mais voyez, donc autant je suis prêt à accepter l'idée qu'on diminue progressivement le nombre d'emplois aidés avec un nombre de critères objectifs, après de la concertation, après une vraie réflexion, autant je trouve que la manière dont ça a été fait là, cet été, par des instructions données au préfet, consistant à fermer le robinet, je trouve qu'il y a une certaine brutalité.
Vous dites ça va trop vite.
Non, je pense qu'en termes de méthode, pour être clair, Bercy a largement pris le pouvoir sur l'appareil de l'État. Ça tient à la formation et à la culture d'Emmanuel Macron. Macron est d'abord un inspecteur des finances qui connaît d'abord au sein de l'État l'inspection des finances, le ministère de l'économie, Bercy. Il est très entouré, le secrétaire général de l'Élysée est aussi un homme de Bercy. Vrai. Donc on sent qu'il y a cette culture de Bercy et Bercy fait du Bercy, c'est-à-dire de la régulation budgétaire, des mesures assez technocratiques qui ont parfois une certaine brutalité qui, de mon point de vue, ne sont pas assez pensées.
Audrey Signeux, sur ces emplois aidés, on le voit, c'est le gros sujet de cette rentrée et il y a une grogne aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales. Déjà, qu'on leur demande de faire beaucoup d'économies, c'est-à-dire il y a près de 13 milliards. Alors Christophe Castaner aujourd'hui est revenu en disant que ce ne sera pas sur 2018. Mais là, sur les emplois aidés, je précise juste, le gouvernement, lui, il entend réduire le nombre de contrats aidés de 460 000 en 2017 à 320 000 fin 2017. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, a dit que c'était le plus grand plan social de France qui se préparait. Est-ce qu'on est, votre avis, dedans ?
Bah, de fait, si c'est tous ces emplois-là qui disparaissent, aidés ou pas, c'est des emplois.
Oui.
Donc, aidés ou pas, ça sera des chômeurs aidés, mais ça sera des chômeurs quand même.
Bien sûr,
c'est de fait un plan social organisé par l'État.
Et qui, Christophe Alix, vous sembliez pas justement d'accord sur cette formulation, voilà, de Jean-Luc Mélenchon, plus grand plan social, voilà, de France.
Oui, ça me paraît un peu exagéré, même si effectivement, on l'a entendu ce matin avec Christophe Castaner, le discours est très technocratique, voire même un peu dogmatique. Enfin, il a expliqué que les emplois aidés, d'abord, c'était mal payé, c'était 600 euros par mois, donc c'était pas intéressant, que eux voulaient, que le gouvernement voulait créer de vrais emplois et non plus des emplois provisoires, mais on a l'impression que il est très loin de la réalité. Enfin, pour beaucoup de gens, les emplois aidés, c'est justement aussi, même si ça forme pas toujours à des métiers très durables, c'est une manière d'éviter de sombrer dans la misère, l'exclusion et de trouver une activité pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc quand on l'entend nous dire non, en fait, les emplois aidés, c'est pas des bons emplois, on va créer des vrais emplois avec notre plan sur la formation, mais tout ça, on le sait très bien, va prendre très longtemps.
Très longtemps.
Demander aux enfants dans les écoles,
en
si
attendant,
c'est,
et sans compter effectivement les dommages que ça crée là sur un certain nombre de services publics.
Important d'ailleurs des cantines.
Bon, même si peut-être le chiffre apparemment a été réduit quand même, hein, entre la première volonté cet été et là la réalité, le nombre de suppressions d'emplois aidés est réduit. Mais alors, le Premier ministre a dit qu'on allait encore accélérer en 2018.
Marion Monge.
Mais Guillaume Larrivé a raison. C'est vrai que la méthode, le fait que ça ait été annoncé pendant l'été et que après avoir que les préfets aient gavé et demandé justement à toutes les collectivités, à tous les élus de prendre des emplois aidés il y a 2 ans et ensuite, il y a 1 an plutôt. En 3 semaines, il a fallu changer de braquet. juste avant la rentrée. Et c'est vrai que plus que les ordonnances et que la réforme du Code du travail, c'est plutôt la baisse des emplois aidés qui peut être explosif pour le gouvernement. Et là, on sent qu'ils sont en train de comprendre...
Il peut y avoir une fronde, finalement,
qui locale, viendrait de
c'est
là.
Ça, qui viendrait de là, oui, au Drossigne.
Oui, moi, je trouve que cette brutalité, elle n'est pas si étonnante de la part d'Emmanuel Macron, qui avait quand même... qui avait promis une révolution. Alors, il dit que les Français n'aiment pas les réformes, mais son bouquin, il l'a appelé révolution.
C'est ça, et puis il annonce la couleur dans
donc,
le point.
Donc, il dit,
dans l'interview
il faut
au point,
quand même,
il est...
Il faut quand même bien qu'il donne des gages de cette détermination.
Il le montre bien
dans le point.
Dans son interview au point, il est très...
Guillaume Larrivé, il y a quand même aussi une chose assez étonnante, c'est on va parler ensuite de la manifestation contre la loi travail, mais on se dit finalement, là vous avez parlé de la méthode, mais sur le fond finalement, qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, à Emmanuel Macron, sur le fond?
Non, mais sur ce dossier précis des contrats aidés, il y a un sujet de méthode, mais il y a un sujet de fond.
Il ne faut jamais oublier que derrière
les chiffres, il y a des personnes. On est en train de parler de femmes, d'hommes, dont les contrats ne sont pas...
Mais est-ce qu'il y a une différence avec ce que finalement vous aviez proposé auparavant, vous, les Républicains? Est-ce que vous ne pouvez pas vous retrouver aussi, finalement, chez Emmanuel Macron, chez certaines mesures, certaines réformes aujourd'hui qui sont proches, finalement, de ce que proposait aussi votre candidat à la présidentielle?
Mais sortons de l'histoire de la présidentielle.
Oui, non, mais je disais, c'est un programme qui a été à un moment noté et surtout voté.
François Fillon proposait beaucoup plus.
Oui, mais François Fillon, il vous a péchaté, mais pas président de la République, on va sortir de cette séquence.
Je parle de son programme.
On a subi l'échec historique du printemps, à part faire éternellement l'élection présidentielle ratée du printemps 2017.
C'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de programme.
Sur le fond, sur les contrats aidés, moi je maintiens que ce sont derrière des hommes et des femmes. Ça doit pas être en marche ou crève, si j'ose dire. Il y avait le sujet, la révolution, mais c'est pas, là c'est quasiment en marche ou crève. Je trouve même assez méprisant la manière dont le nouveau pouvoir traite ces personnes, traite les maires. Encore une fois, je le vois comme député de 111 petites communes en Bourgogne. On a beaucoup de saisines, puis on reçoit des personnes dans les permanences. Il y a un trouble, il y a une difficulté qui est plus qu'une difficulté de méthode, qui tient aussi au respect des personnes. Ça me paraît fondamental. Sur le reste, vous avez raison, il peut y avoir des sujets sur lesquels on va trouver un point d'accord. C'est le cas sur les ordonnances relatives au Code du travail. Je pense que je vais voter la loi de ratification. Je n'avais pas voté la loi d'habilitation, je m'étais abstenu parce que je voulais voir le contenu des ordonnances. Bon, contenu des ordonnances, tel qu'il nous est présenté, a l'air d'aller plutôt dans la bonne direction. Peut-être qu'on va amender ici un chouïa, si j'ose dire, mais globalement, je pense que le député républicain que je suis votera la loi de ratification des ordonnances sur le Code du travail.
Et
je parle de ça en ce moment que les patrons de PME dans ma circonscription, ils ont l'air d'être plutôt heureux de l'orientation.
C'est un sentiment que l'on retrouve chez vos collègues, les Républicains, non constructifs ou pas?
Non constructif, tout ça, c'est...
Oui, justement, exprès.
Pardon, non, mais il y a 100 députés républicains, et par ailleurs, il y a 4 ou 5 opportunistes qui sont allés chercher de la soupe ailleurs. Mais je parle des députés républicains.
D'accord.
100 députés républicains, je pense qu'on va s'orienter, en effet, vers un vote en faveur de la loi de ratification sur les ordonnances, c'est-à-dire, très concrètement, on va approuver, je pense, les ordonnances relatives au Code du travail, en effet.
Allez, dans un instant, on va parler de la gauche et cette mobilisation, justement, de mardi prochain, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Je veux contribuer à faire réussir mon pays. François Hollande le déclare ce soir sur France Info. L'ancien président de la République installe sa fondation La France s'engage. La structure doit lui permettre de poursuivre son action en faveur de l'innovation sociale, mais aussi de continuer à peser sur la vie politique. Emjid El Guerab démissionne de La République En Marche, mais il reste député des Français de l'étranger. L'élu est mis en examen pour violence volontaire avec arme, poursuivi pour avoir blessé à coups de casque de scooter le socialiste Boris Faure. Après la fin du blocage de l'usine PSA de Poissy dans la journée, une centaine de salariés de GMS sont désormais aux abords de l'usine Renault de Flins, toujours dans les Yvelines. Ces employés venus de la souterraine réclament toujours un plan de reprise du site creusois plus favorable aux 277 salariés. Réponse du tribunal de commerce de Poitiers après-demain. Dans un contexte de tension exacerbée avec la Corée du Nord face aux tirs de missiles, Donald Trump autorise le Japon et la Corée du Sud à acheter des armes américaines ultra sophistiquées. Les achats avec Séoul estimés à plusieurs milliards de dollars. Et le Japon a toujours été un gros client des États-Unis. Et puis l'Espagnol Carreno Busta face à l'Argentin Schwartzmann. C'est le match de quart de finale actuellement à l'US Open de tennis. Carreno Busta a déjà remporté les deux premiers sets.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir la journaliste Aude Rossigneux, également le député de Lyon, Les Républicains, Guillaume Larrivé, Christophe Alix de Libération et Marion Mourgue du Figaro. Quand on se bagarre, on connaît toujours ses adversaires, pas toujours ses alliés. Et ainsi, on a pu lire ce texte sur quelques sites aujourd'hui. Nous viendrons tels que nous sommes et avec ce que nous avons, nos grandes gueules et nos semi-remorques, nos cœurs en bandoulière et nos poings fermés. Le temps est venu de défendre nos culs. Voilà, hein, c'est dit comme ça. Un long texte signé Marcel Campion. Et oui, le médiatique forain qui appelle ses confrères de Tagada à bloquer Paris, Marseille, Lyon, Le Havre, le 12 septembre prochain. Alors rien à voir avec une colère contre la réforme du Code du travail, mais en fait une simple passe d'armes entre la mairie de Paris et le forain à propos du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Chissaquin en profite pour régler ses problèmes, on va pas s'en sortir. Hein. En tout cas, la première confrontation sociale du gouvernement Macron se prépare mardi prochain avec une CGT en tête de cortège, mais sans Force ouvrière ni la CFDT, des insoumis et quelques socialistes... ou pas, eh bien on va en écouter deux d'ailleurs, notamment Rian Sipel et voilà, j'ai oublié les noms aujourd'hui, qui sont sortis voilà, exactement, on va les écouter dans un instant et ils ont été pris d'ailleurs à la sortie du siège du Parti Socialiste, c'était hier après-midi.
Le Parti Socialiste devrait clairement appeler à rejoindre les manifestations et les initiatives contre cette loi. Il me semble que c'est ce que les salariés peuvent attendre d'un parti qui souhaite réaffirmer ses valeurs de gauche aujourd'hui.
Vous savez, l'essentiel, c'est pas simplement de courir derrière les appels de manifestation des uns ou des autres. Nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes un parti politique. On ne peut pas se permettre des dissonances à tort et à travers, les uns de la direction qui disent ceci, les autres de la direction qui disent cela. Il faut que chacun s'astreigne à cette sorte de discipline si on veut qu'il y ait un nouveau parti socialiste crédible devant les Français.
Voilà, Laurent Baumet, donc Eduardo Rian Sipel, ça y est, les noms sont retrouvés, deux points de vue différents. Après avoir appelé à manifester, les socialistes iront s'ils ont envie, mais pas de présence officielle, tout en soutenant la mobilisation. Marion Mourgue, c'est une complexité là, mais assez étonnante. Hein.
Oui. Le Parti Socialiste là a du mal à se prononcer, et justement, on ne sait pas exactement qui aura le 12 septembre. Il y aura une partie des syndicats, mais là non plus, ils ne sont pas d'accord.
Chez les socialistes, on peut retrouver les frondes, ceux qu'on appelait les frondeurs auparavant, non? Il y a d'un côté, on a vu Benoît Hamon qui est hors du PS maintenant, mais qui a appelé à manifester.
Voilà, mais les socialistes ont été tellement explosés par ces élections qu'il est compliqué de savoir ce qui pèse encore et s'ils seront nombreux dans des manifestations. Et comme les syndicats sont... ils sont pas vraiment dans une dynamique et peu entraînant, c'est compliqué aussi de savoir s'il y a du monde. Ensuite, est-ce qu'il y a, par exemple, les étudiants qui descendent ou d'autres mouvements qui s'agrègent? Je ne sais pas si là, on aura une grosse visibilité. Mais...
Et Aude Rossigneux, pour vous, quand là, on entend justement au Parti Socialiste, c'est vrai que ça se divise, ça se bagarre, on ne sait pas quoi
je
faire.
Je comprends qu'ils fassent un peu le grand écart. On ne les a pas beaucoup entendus manifester contre la loi El Khomri, qui est à peu près la même que la loi Macron, en tout cas, qui a pas mal de points communs. Mais en même temps, ce qui se passe au PS, pardon d'être cruel, mais je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'influence. Je pense que la gauche est en train d'apprendre à se passer du Parti Socialiste.
C'est ça, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit vraiment des leaders d'opinion où on dit le PS appelle à manifester, c'est un gage de grande manifestation réussie. Je suis pas sûre. Oui, ça peut être Jean-Luc Mélenchon, mais ça peut être des syndicats. Puis en tout cas, la gauche est en tout cas en train de se reconstruire en dehors du Parti Socialiste. Elle apprend à faire sans.
C'est ça, oui, Christophe Alix.
Bah, d'abord, oui, effectivement, il y a Jean-Luc Mélenchon qui essaye vraiment de prendre le leadership sur cette lutte contre les ordonnances. Et on voit bien, il essaye aussi de prendre de vitesse les syndicats qui n'apprécient pas beaucoup, même s'il y a une esquisse de petit rapprochement avec la CGT.
Entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon.
Et demain, voilà. Mais le paradoxe, c'est que finalement, la gauche et les syndicats sont relativement unis à, disons, plutôt condamner cette réforme des ordonnances. Hein. Même la CFDT a dit sa déception, même la CGC, les cadres. Ont dit qu'ils n'iraient pas à la manifestation. Et à côté de ça, le paradoxe, c'est que tout le monde est en rang dispersé, alors que, en gros, voilà, il y a plutôt un refus manifeste, notamment sur un certain nombre de points des ordonnances, qui devraient... théoriquement, amener une esquisse de d'unité à gauche, mais chacun tire dans son coin.
Alors, Guillaume Larrivé, vous n'y serez pas, hein, puisque vous nous l'avez dit, vous voterez...
Je vous le confirme, voilà. Je ne compte pas manifester aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.
Pourtant, quand vous voyez ça, pour vous, cette mobilisation sociale, est-ce que, comment vous l'avez senti justement, ces syndicats divisés, la loi El Khomri, au contraire, ils avaient uni, bon, sauf la CFDT, là, en sortant de Matignon, la semaine dernière, on a vu Philippe Martinez, déçu, Laurent Berger, surtout lui qui s'était dit déçu, et Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière, là, plutôt surprenant, disant bah, on a avancé, ça peut pourquoi pas ne bien se passer, appréciant la méthode.
Il est probable que le contenu de ces ordonnances ne soit pas complètement révolutionnaire. En réalité, c'est une succession de mesures techniques qui vont plutôt dans la bonne direction, mais qui ne constituent pas un bouleversement tel.
Révolution copernicienne, avait dit le président.
Oui, mais je ne crois pas. Je pense que c'est un texte qui a son utilité, qui ajuste un certain nombre d'articles du Code du travail, qui a été plutôt finement rédigé par les équipes du ministère du Travail, notamment par la DGT, la Direction générale du travail. Voilà. Donc tout ça a été plus ou moins négocié. Non, ce que je trouve intéressant en plan politique, c'est tout se passe comme si Jean-Luc Mélenchon était au fond le meilleur ennemi, c'est-à-dire l'allié objectif d'Emmanuel Macron. C'est presque une sorte d'opposition officielle de Sa Majesté, parce qu'il y a des espèces d'outrances, il a un côté cabotin, et il est structurellement minoritaire, en tout cas je le crois, dans l'opinion publique. Et je pense que c'est assez commode pour le président de la République d'essayer au fond qu'entre lui et cette espèce de démagogue vénézuélien, il n'y ait rien. Et précisément tout le défi
justement,
pour
on
nous,
va en parler.
Ça va être de reconstruire une vraie opposition.
Je vous propose de garder quelques arguments dans un instant, puisqu'on va parler justement de cette opposition de droite.
J'ai fait la transition quasiment.
C'est formidable, vous devriez faire de la radio. Peut-être. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins, avec le prix de leur placard, ils peuvent aller se rhabiller. Et puis, il y a la paire, avec ses festiprix parfaitement ajustés.
Jusqu'au 11 septembre, c'est la rentrée des festiprix chez la paire, avec par exemple 30% de remise sur les portes de placard coulissantes sur mesure.
Moins 30% sur les portes de placard. La paire, c'est clair, il n'y en a pas deux.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
France Info Météo, avec Pilote, stylo innovant et respectueux de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Encore des nuages. Demain, la perturbation arrivée par le nord-ouest glisse vers le sud et l'est. On la retrouvera le matin entre le sud-ouest, le nord de Rhône-Alpes, le grand est avec quelques pluies. Ça s'arrangera l'après-midi, retour de belles éclaircies. Plus à l'ouest de la Manche, vers les Charentes, la région parisienne, les Hauts-de-France, une alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques averses et plus de nuages quand même de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine. Et puis en Méditerranée, du soleil mais du vent jusqu'à 80 km/h pour la Tramontane. On perdra quelques degrés demain, 12 à 16 degrés au nord le matin, 14 à 21 au sud. L'après-midi, 18 degrés pour Cherbourg, 20 à Lille, 21 à Paris, Nantes, Nevers ou Limoges. Il fera 23 degrés à Strasbourg, à Bordeaux, 24 à Lyon et Montauban. Encore 28 degrés à Toulon, Bastia et 31 à Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Donald Trump met fin au programme DACA, des permis provisoires de séjour qui étaient destinés aux jeunes migrants scolarisés qui arrivaient clandestinement aux États-Unis. Permis de 2 ans qui avait été mis en place par l'administration Obama. Ces jeunes migrants bénéficiaires, ils sont 800 000, ils sont appelés les Dreamers. À Washington, Gregory Phillips.
Donald Trump a tranché, mais c'est son ministre de la Justice qui l'annonce. Ça tient en quelques mots. Le programme DACA, mis en place par l'administration Obama, est annulé. À compter d'aujourd'hui, plus aucune nouvelle demande ne sera examinée. Les 800 000 Dreamers qui bénéficient de ce permis provisoire ne seront pas affectés avant 6 mois, le temps pour le Congrès américain de trouver une solution. Les mots de Jeff Sessions à l'égard de la précédente administration sont particulièrement rudes. Obama a mis en place ce programme DACA au mépris de toutes les lois sur l'immigration. Ce décret est anticonstitutionnel. Les facilités accordées à ces jeunes immigrés illégaux, explique le ministre de la Justice, leur ont permis d'occuper des emplois qui auraient dû revenir à des Américains. L'administration Trump annule donc l'un des dispositifs les plus symboliques de l'ère Obama, malgré la mobilisation d'une grande partie du monde des affaires. Les patrons de Facebook, General Motors et Apple s'étaient mobilisés, malgré aussi les appels à la générosité de plusieurs responsables républicains, dont le patron de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Côté démocrate, le gouverneur de New York a déjà fait savoir qu'il contesterait en justice l'annulation de ce programme. Washington, Grégory Phillips, France Info.
Le gouverneur de Floride déclare son état en situation d'urgence. La Floride se retrouvera probablement sur le trajet de l'ouragan Irma, premier territoire menacé des Antilles dès cette nuit. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais aussi la Martinique et la Guadeloupe, tout en alerte rouge ce soir. L'ouragan est passé en catégorie 5, les vents les plus forts que l'on puisse redouter. Irma frappera donc l'arc antillais cette nuit. Les victimes du Mediator auront droit à un procès en correction correctionnel, 14 prévenus et 11 personnes morales sont renvoyées devant la justice. Et parmi les personnes morales, les laboratoires Servier qui commercialisaient l'antidiabétique, mais aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament soupçonnée d'avoir tardé à le retirer de la circulation alors qu'il y avait des risques d'hypertension artérielle pulmonaire. Emjid El Guerab reste député, mais il a annoncé aujourd'hui qu'il démissionnait du parti La République En Marche. Il est élu dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Il a été mis en examen pour violence volontaire sur un cadre du Parti Socialiste. A-t-il versé des pots de vin pour obtenir les Jeux Olympiques à Rio l'été dernier? Le président du comité d'organisation de ces Jeux a vu en tout cas son domicile perquisitionné à une enquête conjointe du Parquet National Financier Français et de la Police Fédérale Brésilienne semble démontrer un système de corruption dans le sport mondial. L'un des membres du comité international olympique, Lamien Diak, aurait organisé autour de son fils un réseau d'achat de voix pour la désignation de Rio. Les quarts de finale de l'US Open de tennis ce soir, l'Argentin Diego Schwartzmann éliminé par Pablo Carreño Busta. L'Espagnol a réglé le match en 3-7 seulement. On suivra plus tard l'affrontement entre l'Américaine Venus Williams et la Tchèque Petra Kvitova. On revient maintenant vers le studio des Informés, 20h33 sur France Info. C'est à vous, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, tous les matins, ils étalent une bonne dose d'actualité sur leur tartine et n'hésitent pas à dire c'est bon. Et ce soir, les Informés de France Info reçoivent la journaliste Aude Rossigneux, également le député de Lyon, Les Républicains, Guillaume Larrivé, Christophe Alix de Libération et Marion Mourgue du Figaro. Dans un instant, on va parler des constructifs, mais Marion Mourgue, justement, Guillaume Larrivé parlait de Jean-Luc Mélenchon, presque opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Cette semaine, il y a Marine Le Pen qui va faire sa rentrée. On ne l'a pas du tout entendu depuis qu'elle est élue députée. Je pense qu'il y a même des Français qui ont dû oublier qu'elle est députée présente à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas de groupe. Est-ce qu'elle peut peser fortement après, même si elle a perdu la présidentielle, elle a tout de même rassemblé 11 millions de voix sur son nom au second tour. Est-ce qu'elle peut être une opposante aussi forte et médiatique que Jean-Luc Mélenchon?
Oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que là, elle est étonnamment discrète et elle a pas de groupe. Donc, on voit bien qu'à l'Assemblée, le Front National n'arrive pas à peser. Elle fait sa rentrée jeudi soir sur TF1, puis samedi à Brachet, c'est sa rentrée politique traditionnelle. Mais ce qui est dingue, c'est que là, elle a un boulevard. C'est-à-dire que il y a des textes importants et elle pourrait s'exprimer dessus. Elle pourrait essayer de prendre le leadership et on ne l'entend pas. Et on voit bien que l'entre-deux tours de la présidentielle, le débat raté, a laissé des traces. Donc, ça va prendre du temps au Front National aussi de se reconstruire. Et puis peut-être qu'il y aura un retour de Marion Maréchal Le Pen après les suites au Front National. C'est pas tout de suite en tout cas.
Aude Rossigneux, est-ce que ça vous a étonné justement de ne pas entendre Marine Le Pen sur la loi travail notamment, puisqu'elle est quand même élue aussi du nord de la France. Là, une région qui est particulièrement touchée par les réformes du travail et elle ne s'est pas du tout exprimée. Elle n'a rien du tout entendu.
Oui, mais peut-être qu'elle attend un autre moment, une vraie rentrée. Je sais pas, effectivement, je trouve ça à la fois un peu étonnant et... en même temps, puisque c'est très à la mode
bien
de dire
sûr,
ça.
Bien sûr, en même temps, bien sûr.
Il y a moins d'appels d'air à droite qu'à gauche pour une Marine Le Pen. On dit que Mélenchon peut devenir le premier opposant. De fait, à gauche, c'est un désert. La gauche a été tellement sinistrée. En tout cas, le Parti socialiste a été tellement sinistré par la précédente présidentielle que on cherche quelqu'un. La droite, on peut pas dire qu'elle se porte hyper bien. Vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est quand même pas ce qu'est devenu le Parti socialiste aujourd'hui. Donc, je pense que oui, il y a un créneau pour Marine Le Pen. Je pense qu'il est moins important que celui qu'a Jean-Luc Mélenchon à gauche.
Alors, on va en parler justement de la droite, puisque si vous êtes restaurateur à Trouville, vous allez peut-être avoir d'étranges clients demain et jeudi. Des gens qui n'hésiteront pas à mélanger les œufs mayonnaise avec des frites, mélanger un flan de cerise et pour terminer leur vin, eh bien, ils demanderont à mettre du café dedans. Ce sont des constructifs. Les constructifs, ce groupe à l'Assemblée nationale formé de l'UDI et de députés républicains dans l'opposition, mais soutenant le gouvernement ou comment prendre le meilleur de chaque. Ils se réunissent donc à Trouville pour donner une suite à leur action et pourquoi pas former un nouveau parti au moment où Laurent Wauquiez semble mieux placé pour gagner la présidence des Républicains. L'un des constructifs les plus emblématiques, eh bien, n'est pas du tout tendre avec Laurent Wauquiez. On écoute Thierry Solaire.
Les Républicains, ce beau nom d'ailleurs, sont morts au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. J'y étais. C'était un bureau politique qui devait définir la position de ce parti en vue du second tour. Ils ont même pas été capables d'appeler à voter clairement pour Emmanuel Macron face à la présence de l'extrême droite. C'est Monsieur Wauquiez et ses amis qui y ont veillé scrupuleusement. Et moi, je pense qu'ils portent là une tâche indélébile que d'avoir cassé.
Voilà, donc c'était Thierry Solaire donc sur RMC. Guillaume Larrivé, vous soutenez, vous, la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains. Quand vous entendez, finalement, ces propos de Thierry Solaire, c'est pas le seul, hein, en disant « Laurent Wauquiez imite le Front National », qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que Thierry Solaire, en fait, appartient à une espèce très ancienne de politiciens qu'on connaît bien dans l'histoire de la République. Vous avez toujours, dans toute l'histoire de la République, des gens qui, en fond, sont à peu près aussi vertébrés que des mollusques, qui vont derrière le petit bol de soupe le plus chaud qui leur est tendu par le pouvoir en place. Enfin, c'est aussi vieux que la République. Sous la 3e, sous la 4e, vous avez toujours des personnes comme ça. Je suis très déçu. Moi, je connais bien Thierry Solaire. On a, pendant 5 ans, été au même étage, dans le même couloir, dans le même immeuble de l'Assemblée nationale. On avait des relations tout à fait amicales, mais je trouve vraiment que cette espèce de dérive politique n'est pas très digne. Et en plus, c'est très accessoire, parce que c'est même pas très intéressant.
Ça il représente souvent quand même chez
le représente lui-même. Parce qu'en réalité, il est le député de Boulogne, il faut que les
téléspectateurs le savent.
Donc voilà, il est grosso modo le député qui habite au milieu des diverses chaînes info. Et donc, il passe, c'est sa vie, c'est son métier d'aller dans les médias, alors, s'exprimer, faire ça.
Mais
c'est anecdotique, franchement. Non, mais la situation de Thierry Solaire est franchement anecdotique.
Alors, Thierry Solaire, mais ce n'est pas le seul au sein des Républicains. Il y a des gens qui ont quand même un poids, par exemple Valérie Pécresse, qui gère la première région de France, qui dit qu'il y a des lignes rouges par rapport à Laurent Wauquiez. Cette histoire de Front National par rapport à Laurent Wauquiez, le côté identitaire revient souvent. On le voit auprès de, comme on dit, de gens qui comptent au sein des Républicains. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème ?
Non, ça n'est pas un problème, parce qu'en réalité, vous avez un certain nombre de personnes qui vont vouloir, au prétexte de combattre des divisions, qui vont essayer de les attiser. Moi, je veux pas faire ça. Si j'ai décidé de faire alliance avec Laurent Wauquiez, avec aussi la première adjointe du maire de Bordeaux,
Virginie Calmels,
qui est Virginie Calmels, avec un grand nombre de députés, de sénateurs, d'élus locaux, de militants, si on a décidé de monter cette alliance autour de Laurent Wauquiez, c'est précisément parce que nous pensons que notre job, notre mission, là, dans les 2-3 mois, c'est de reconstruire la droite française. Alors, une droite qui est de droite, il n'y a pas d'excuses de gauche, mais enfin une droite qui va assumer un certain nombre de valeurs, puis surtout une droite qui va se mettre au travail, parce que l'élection du président des Républicains au mois de décembre, ça va pas être le point d'arrivée de cette reconstruction, c'est le point de départ. C'est à partir de cette élection, à partir du mois de décembre, qu'il faut qu'on reconstruise le parti, qu'il faut qu'on reconstruise notre projet, qu'il faut qu'on travaille dans les territoires. Bref, on a beaucoup de pain sur la planche, si vous me permettez cette expression, et on va le faire à partir de cette étape de reconstruction. Construction nécessaire, qui est l'élection du président par les militants républicains.
C'est ça. Sera donc mi-décembre. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
La Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe placée en vigilance rouge ce soir. Une précaution de Météo France alors que le passage de l'ouragan Irma est de plus en plus menaçant. Les prévisionnistes s'attendent à un ouragan extrêmement dangereux. François Hollande prend les rênes de sa fondation La France s'engage et dans une interview exclusive accordée à France Info, l'ancien président de la République entend contribuer à faire réussir son pays. Il en profite pour appeler le président turc Erdogan à libérer Lou Bureau, le photoreporter français détenu depuis le mois de juillet. L'État a cédé 4,1% du capital d'Engie pour 1,4 milliard d'euros, mais il reste actionnaire de référence du fournisseur de gaz et électricité. Le gouvernement cherche à vendre des participations d'entreprise pour pouvoir financer l'innovation. 14 prévenus, 11 personnes morales renvoyées en correctionnel dans l'affaire du Mediator. C'est une information France Inter. 4000 plaignants, les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament sont renvoyés respectivement pour homicides involontaires par violation délibérée et homicides involontaires par négligence. 9 jours après la disparition de Maïlys, les gendarmes perquisitionnaient aujourd'hui la maison du suspect en Savoie. C'est là que l'homme de 34 ans dit s'être débarrassé d'un short blanc taché de vin le soir du mariage et de la disparition de la petite fille. Et puis, Carreño Busta s'est qualifié pour les demi-finales de l'US Open de tennis. L'Espagnol vient de battre en 3-7 l'Argentin Diego Schwartzmann, 6-4, 6-4, 6-2.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, serions-nous peut-être un peu trop dépendants des élections, on ne sait pas, mais voilà, on en a passé 10 l'année dernière, il nous en faut encore une, voilà, ça sera celle de la présidence pour les Républicains, en ce moment on parle beaucoup de Laurent Wauquiez, mais tout de même, juste avant, Christophe Alix, il y a d'autres candidats aussi, et ce matin, il y en a un, c'est Daniel Fasquelle, alors tout le monde ne le connaît pas toujours, il est député du Pas-de-Calais, hein, les Républicains, et lui...
Du Touquet, non ?
Exactement. Et il a expliqué que Laurent Wauquiez, lui, se trompait d'élection, en fait, qui visait la présidentielle. Est-ce que c'est ça, en fait, aussi, qui se joue ?
L'impression qu'on a, c'est que oui, effectivement, enfin, tout de suite, Laurent Wauquiez est reparti. On a un peu l'impression que c'est comme si la droite n'avait pas bien compris la défaite auquel elle venait d'être exposée. On est dans une forme de... Laurent Wauquiez est quelqu'un de très clivant. Il est en train d'emmener quand même la droite vers une forme de droitisation. Il a un discours qui est beaucoup plus identitaire, avec des relents souverainistes que sur les thématiques économiques. Et bon, enfin, on a l'impression que la droite n'a pas très bien compris ce qui lui était arrivé. Et surtout, enfin, il semble que là, on ait un danger maintenant très très fort de dislocation de la droite et que, ben, voilà, que un certain nombre, c'est un peu comme chez les socialistes que avait entre Hamon et puis Manuel Valls à l'époque, ouais, que les différentes tendances ne vont jamais pouvoir cohabiter et que sans doute l'élection de Wauquiez marquerait quand même une nouvelle étape, qui pour des gens comme Pécresse, alors, ou d'autres,
Xavier Bertrand
ne serait sans doute pas possible.
Possible. Autre signe, vous vouliez.
Oui, non, mais je trouve qu'effectivement, la droite ne tire pas bien les leçons de ce qui lui est arrivé précédemment. C'est peut-être un peu tôt, effectivement, pour penser à la présidentielle, d'abord. Même si, évidemment, l'enjeu, quand on prend un parti, c'est de le représenter. Mais enfin, si vous organisez encore des primaires, on peut à nouveau avoir des belles surprises. Et puis surtout, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait pas attiser les divisions, mais vous en avez profité dans la foulée pour traiter Thierry Soler de mollusque. Alors... Je trouve que c'est quand même un peu contradictoire, si je peux me permettre.
Non, mais on est en 2017, on n'est pas en 2022. Je dis ça pour Christophe. Le sujet du jour, vraiment, n'est pas du tout là tout de suite de traiter la question de l'élection présidentielle de 2022. Ça serait complètement...
Il n'est pas du tout là-dedans, Laurent Wauquiez. Il ne pense pas du tout.
On a un candidat clivant.
Ce n'est pas évidemment le sujet du jour. Par ailleurs, je vous confirme, et je le dis très respectueusement à Jean Nez de Libération, que notre idée n'est pas forcément d'être applaudi par Libé et par le lectorat de Libé. On est en train de faire l'élection du président du premier parti d'opposition par le nombre de députés, par le nombre d'élus territoriaux, par le nombre de militants, qui est un parti effectivement de la droite française. Alors, qui va s'inscrire dans une tradition qui précisément est multiple. Il y a les bonapartistes, les orléanistes, il y a les libéraux, il y a les gaullistes, il y a les radicaux, il y a les indépendants, etc., oui, etc. Et puis, il y a une droite surtout qui doit se projeter dans l'avenir. On n'est pas seulement les héritiers des partis précédents, on doit aussi là tout de suite trouver des solutions pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et de ce point de vue, je m'arrête là, le fait que Laurent Wauquiez ait 42 ans, qu'il soit entouré d'un certain nombre de cadres,
c'est quand même quelqu'un d'assez clivant,
assez expérimenté et assez novateur aussi, c'est quelque chose de très bien pour notre famille.
Alors justement, Marion Morgue, juste aussi déjà une question, parce qu'on parle beaucoup de Laurent Wauquiez, je vais citer quand même aussi les autres. Il y a Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Laurent Seylier, Julien Aubert, député du Vaucluse depuis hier, Maël de Calan. Alors forcément, là, je viens de perdre je ne sais pas combien d'auditeurs en citant toutes ces personnes-là, parce qu'elles ne sont pas très connues. Combien il y a de troupes, surtout, on se pose la question. Laurent Wauquiez est très critiqué par ce qu'on appelle les barons, voilà, des Républicains, des éléphants, comme on dirait au PS. Et pourtant, personne ne se présente face à lui.
Il est très soutenu. Alors, aussi, pardon.
Enfin, oui, non, mais pourquoi personne ne se présente face à lui?
Juste une précision, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a 6 candidats, mais il va falloir les parrainages. Donc, on saura à partir du 11 octobre qui est vraiment candidat, puisqu'il faut des parlementaires et des militants.
Alors, pourquoi finalement personne finalement de poids véritable n'y va face à Laurent Wauquiez, par exemple, pour défendre d'autres idées, d'autres programmes?
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est qu'il y a des stratégies qui sont différentes. C'est-à-dire que, par exemple, pour Xavier Bertrand, le parti politique ne représente plus rien avec l'idée que, depuis qu'il y a eu Emmanuel Macron, on fait de la politique autrement et que le parti a vieilli et qu'il faut passer finalement par l'opinion publique ou... En tout cas, autrement. Et puis, il y a aussi le fait que Laurent Wauquiez, il est détesté par les ténors, mais il est adoré par les militants. Et donc, c'est aussi, ça explique que d'autres ténors ne prennent pas le risque d'aller face à lui, avec l'idée qu'il pourrait perdre.
D'accord.
Et c'est vrai qu'on a rarement vu un tel décalage entre une détestation au sommet et une adoration presque de la base. Alors, je ne dis pas que tous les militants sont provoqués, mais ils tournent depuis longtemps dans les fédérations. Parfois, il peut servir un discours qui plaît aux militants. Et c'est vrai qu'il a réussi à créer de nombreux soutiens.
Guillaume Larrivé, c'est vrai que, comme le disait Christophe Alix, sur le côté clivant, et c'est vrai qu'on y revient toujours avec Laurent Wauquiez, parce qu'il s'est fait aussi une publicité de ça, quand on voit son parcours politique. Il vient du centre-droit, il a fréquenté à un moment Patrick Buisson, il a quand même des propos sur les migrants, sur les chômeurs, sur l'islam, qui peuvent en effet, même au sein de son parti, poser question tout de même.
Mais je vous confirme qu'il n'est pas de gauche.
Comme Alain Juppé n'est pas de gauche, par exemple.
Il me semble qu'on ne doit pas s'excuser de ne pas considérer qu'Emmanuel Macron, c'est le sommet éternel du monde politique et qu'on ne peut pas trouver mieux. Enfin, on ne va pas s'excuser de être une annexe du MoDem, on ne va pas s'excuser de tout cela.
Mais personne ne le fait, qui le fait ça ?
Il y a parfois une petite tendance qui voudrait qu'on s'excuse de ne pas être une annexe du MoDem. Non, nous, on est la droite. Bien. On est conscient qu'il y a eu un échec historique au printemps. On est conscient qu'il faut tout reconstruire, on est conscient que ça va prendre du temps, mais on a la volonté de le faire, et on a la volonté de le faire en équipe. Moi, je me suis interrogé cet été, j'ai beaucoup parlé avec Laurent Wauquiez, parce qu'on a parfois des différences. Par exemple, moi, j'aimerais le pousser à ce qu'on réfléchisse de manière plus active sur la question des institutions, sur la manière de gouverner le pays, sur la gouvernance. Bon, on a plein de sujets. On a aussi le sujet de l'écologie, qu'il va falloir qu'on développe, et dont il a commencé un petit peu à parler. Je déjeunais hier, je peux le dire comme ça, à l'antenne, avec Virginie Calmels, on évoquait aussi les questions de société. Il va falloir qu'on ait des débat là-dessus. Et ça va être passionnant. Les militants nous confient les clés de cette grande maison commune qu'est le Parti Les Républicains, moi je crois, contrairement à Xavier Bertrand, que précisément les partis politiques ont encore un avenir. Parce que les partis politiques, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent. C'est des élus territoriaux dans les villes, dans les départements, dans les régions. C'est des acteurs au Parlement qui expriment des positions. Je pense que les partis politiques ont un avenir et que les petits clubs ou les fan clubs ne sont pas l'horizon de la politique.
Juste une question voilà, qu'on va vous poser hein, sûrement. Quelle différence aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et le Front National?
Mais elles sont absolument considérables.
C'est sur quoi, par exemple? Quel sujet?
Dès que Mme Le Pen s'exprime, on entend de la brutalité et de l'incompétence. Il suffisait de regarder le débat de l'entre-deux-tours. C'était absolument frappant. Je pense que nous n'avons évidemment pas cette brutalité, cette incompétence, cette espèce de violence à la fois verbale et souvent sur les solutions. Voilà, je pense que le Front National de Mme Le Pen est une impasse. Voilà.
Donc c'est sur la forme.
On l'a dit.
Sur la forme.
Mais sur la forme et bien évidemment sur le fond. Elle ne présente pas de solution pour la France. Elle a une espèce de PME familiale qui vit sur les problèmes de la France. On l'a dit, on l'a redit, on l'a répété, on ne va pas le dire 59 fois. Bon, et on l'a prouvé aussi. Regardez les conditions dans lesquelles Laurent Wauquiez a été élu président de la région Rhône-Alpes.
Avec le MoDem.
Il n'a évidemment pas été élu en faisant une alliance avec Mme Le Pen. Il a été élu parce qu'il a su fédérer une majorité.
Des traits qui ressemblaient quand même proches. Vous savez, Guillaume Larrivé, on en a beaucoup parlé.
Il a su fédérer une majorité de Français. Même chose pour moi dans ma circonscription et pour mes collègues députés. On a été élus aussi parce que le suffrage universel l'a voulu. Je le dis d'ailleurs à l'intention d'un certain nombre de candidats.
Il incarne quand même une forme de droite.
Enfin, à l'aveugle, honnêtement, on lit un tract du Front National et un tract de Laurent Wauquiez. Et je vous jure qu'il y a pas mal de gens qui peuvent s'y perdre.
Écoutez, c'est votre lecture.
Il incarne une droitisation.
Ce n'est évidemment pas la nôtre, mais je confirme. Par ailleurs, que nous ne nous interdisons aucun sujet qui intéresse les Français, parce qu'on veut parler à cette majorité encore silencieuse de Français qui aiment la France et qui sont plutôt de droite.
Allez, dans un instant, on va parler un petit peu d'économie de l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
L'ouragan Irma, de plus en plus menaçant, et l'État active ce soir sa cellule interministérielle de crise. Météo France a placé les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique en vigilance rouge. Un déploiement de manière préventive du personnel de formation militaire. Il est également recommandé plus que jamais aux populations de suivre les consignes de sécurité face aux pluies et aux vents violents. François Hollande, élu président de la Fondation La France s'engage, et l'ancien chef de l'État s'exprime sur France Info. Je veux contribuer à faire réussir mon pays. Cette fondation doit lui permettre de poursuivre son action en faveur de l'innovation sociale, mais aussi de continuer à peser sur la vie politique. Puisque l'État baisse les APL de 5 euros cette année, Emmanuel Macron demande aux propriétaires de baisser d'autant le prix des loyers. Le président de la République invoque aujourd'hui une responsabilité collective. Réaction sur France Info de Jean Perrin de l'Union nationale de la propriété immobilière. C'est facile de faire des cadeaux en premier.
prenant l'argent aux autres. On les appelait les Dreamers, les rêveurs. Donald Trump met fin au programme protégeant ses 800 000 jeunes sans papiers. Aucune nouvelle demande ne sera examinée aux États-Unis. Le président américain supprime ce programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama. Il mettait des centaines de milliers de jeunes sans-abri justement à l'abri d'une expulsion.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, un petit coup de loupe rapide hein, sur un sujet de société dont on va beaucoup parler finalement dans les années à venir à propos de la sécurité, puisque depuis vendredi, la Normandie, bah, décidément on en parle beaucoup dans cette émission, je ne sais pas pourquoi, teste des voitures radars, voilà, avec des sociétés privées, non plus des forces de l'ordre. Question, au bout de combien de temps, au bout de combien de contraventions verbalisées gagne-t-on une casquette de la société hein, qui l'a verbalisée? Externaliser les contrôles de vitesse, une crainte pour certains qui voient une course au profit, une manière pour les autres de redéfinir les missions de la police dans un contexte particulièrement chargé pour les forces de l'ordre. Audrey Signeux, pour vous, est-ce que, justement, le maintien de l'ordre, les opérations comme ça, finalement, les petites opérations, est-ce que pour vous, ça doit aller dans le secteur privé? Est-ce que c'est un secteur qui doit aussi s'atteler à ça?
Mais, enfin, c'est quoi la prochaine étape? Ça veut dire que si on doit mettre l'accent sur la lutte antiterrorisme, après, on va envoyer des milices pour s'occuper des stupes? Enfin, on privatise quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'État. Et puis attention, on va confier des radars à des gens dont la priorité est pas la sécurité des automobilistes, mais de gagner de l'argent. Ils font pas du commerce équitable. Ouais. Ce sont des sociétés privées.
Alors juste pour expliquer, c'est juste, ça sera les chauffeurs. Hein, c'est pas eux qui vont verbaliser véritablement. C'est pas eux qui vont verbaliser.
On les connaîtra
pas. Mais c'est vrai que. On peut se poser la question, Christophe Alix, sur cette sécurité, finalement. Il y en a d'autres. On se souvient lors des manifestations en automne dernier des policiers. Bernard Cazeneuve, qui avait répondu en disant, bah, par exemple, pour les postes fixes devant certaines administrations, on pourrait mettre des sociétés privées. Est-ce que c'est une réponse, le privé, à ces
méthodes? Pense que le privé n'est pas forcément une réponse. Je pense qu'en l'occurrence, ça ne pose pas vraiment de problème.
Oui.
Là, on parle d'une personne qui donc va juste rouler dans un véhicule. Il y aura 450 véhicules qui restent la propriété de l'État. La personne est là juste pour constater l'infraction. En fait, pour rouler, c'est comme si on avait un logiciel à l'intérieur de la voiture qui fait le travail tout seul. Ensuite, c'est envoyé au centre automatisé de traitement des amendes à Rennes. Et c'est là que l'officier du ministère public peut intervenir. D'autre part, j'ai lu aussi que le préfet garderait le choix des axes à contrôler.
Donc pour vous, c'est suffisamment encadré, en fait.
C'est suffisamment encadré. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est que on va passer de 1h15 par jour actuellement, au vu des effectifs de force de l'ordre, à 6 à 8 heures par jour. Et là, effectivement, ce qui est sûr, c'est que comme en plus, il va falloir rétribuer la société privée et essayer en même temps de garder le même montant pour l'État de l'ordre d'un milliard par an, il faut aussi le dire, c'est pas seulement mettre les policiers sur d'autres tâches, ce qui sera parfaitement positif, mais également, il va y avoir plus de contrôles et plus de gens qui vont être verbalisés. Ça, c'est sûr.
Marion Morieux.
Si ce n'est qu'on oublie le premier problème, c'est-à-dire le nombre de morts sur la route, qui a un peu diminué à un moment, mais qui est reparti à la hausse.
Qui est sur un plafond maintenant. Ouais.
Et on sait bien que la seule manière de faire diminuer ce chiffre, c'est aussi de mettre des radars, parce que on est tous pareils. Quand on voit un radar, eh ben on ralentit.
En plus, là, c'est des radars mobiles.
C'est ça.
Donc, si justement, on se dit qu'on a des radars mobiles, on fera un peu plus attention. Donc, c'est aussi de réfléchir sur l'efficacité, sur quelque chose qui nous concerne tous quand même.
Guillaume Larrivé, sur le côté justement privé, par rapport à des missions finalement d'État, est-ce que ça vous choque? Vous trouvez ça peut-être mieux pour redéfinir les missions de la police dans le contexte dans lequel nous vivons, sur ces sociétés privées?
Deux remarques, c'est vraiment un sujet qui me passionne, c'est un peu ma spécialité à l'Assemblée, ces questions de sécurité. Un, je suis absolument convaincu qu'il faut renforcer le cœur régalien de l'État et donc affecter des moyens, y compris budgétaires, supplémentaires aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, ce qui suppose de trouver des économies ailleurs. Enfin, ça me paraît absolument fondamental de réussir ce réarmement budgétaire et opérationnel de l'État. Et donc, dans le même temps, je pense qu'un certain nombre de missions qui doivent être précisément définies peuvent être déléguées à un certain nombre d'acteurs de sécurité privée. Oui. Hier même, à l'Assemblée nationale, nous recevions, lors d'une audition qui n'avait rien de médiatique, mais une séance de travail, le directeur général du CNAPS. Le CNAPS, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité. D'accord. C'est quelque chose qu'à l'époque où je travaillais sous l'autorité de Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, on avait créé il y a quelques années pour professionnaliser le secteur de la sécurité privée. Il y a quelques mois aussi, au mois de février, on a voté un texte qui permet à certains agents de sécurité privée d'être armés dans certaines conditions. Ouais. Donc tout ça, très encadré, très surveillé par la puissance de l'État, peut avoir un sens, par exemple pour sécuriser des habitations, procéder à des surveillances de domicile ou d'usine. Je ne pense pas qu'il faille avoir une approche idéologique, mais très pratique, très sérieuse, mais très pratique sur ces questions.
Attention, on dirait presque Emmanuel Macron.
Ah bon ?
C'est un problème qui vient d'arriver quand vous dites ça.
Je suis désolé.
Pratique. Voilà, c'est incroyable, ça arrive. Vous voyez,
ça m'attriste. Merci. L'émission s'était bien passée pourtant.
Merci beaucoup, Guillaume Larrivé, d'être passé. Merci à Aude Rossigneux. Un petit coup d'œil à nos partenaires. La une du Figaro demain, Marion Morieux.
Sur les réformes d'Emmanuel Macron et du gouvernement, APL, RSI, etc.
Et la une de Libération, Christophe Fallix.
C'est sur la gauche divisée face à la réforme du Code du travail. Macron, si tu savais.
Très bien, voilà, c'est la une. Et il est temps pour nous de retrouver Jean-François Killy. Bonsoir, Jean-François.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Alors, tout est politique au programme ce soir.
Au programme, le moral des élus locaux. Et nous recevons François Patrial, le président du groupe La République En Marche au Sénat, qui mène une campagne des sénatoriales sur fond de réformes qui fâchent. Martial Foucault, le patron du Cevipof. Gilles Lécuel de la CFE-CGC. Et Yael Gauss de France Info, qui a interviewé François Hollande.
Ah oui, oui, qui a été élu président aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, c'est ça qui est assez incroyable. Encore président. Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.